Et bonjour à tous, bonjour à toutes les nouvelles du ciel. Et Denis, bonjour.
Bonjour à tous et à toutes.
Aujourd'hui, on va rester sur ce thème solaire. Le système solaire, c'est inépuisable, je pense, comme sujet.
Oui, c'est un sujet qui est particulièrement riche en astronomie.
Oui.
Le système solaire, c'est le milieu dans lequel la Terre gravite autour du Soleil avec ses compères planétaires.
Oui. Ça suffit comme rappel de ce système solaire ou il faut encore un petit peu l'approfondir ?
Ah, il y a énormément de choses à dire sur le système solaire. Hein. Ce n'est pas une seule séance de 30 minutes qu'on pourra boucler le programme. Ça serait un petit peu prétentieux.
Oui.
Pour faire quelques rappels déjà sur la position de notre système solaire dans l'univers. Notre système solaire est situé dans une galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Hein, une galaxie comme la nôtre est constituée de différents types d'étoiles. On en compte 200 milliards, hein, 200 milliards d'étoiles qui constituent la Voie lactée. Et la Voie lactée, comment se la représenter ? Tout simplement un système de spirales. Et notre système solaire, justement, est situé dans l'une de ces spirales, située à peu près à 26 000 années-lumière du centre de la Voie lactée. Hein, sachant que notre Voie lactée fait 100 000 années-lumière de diamètre. Je rappelle bien sûr qu'une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en une année à la vitesse de 300 000 km à la seconde, hein, ce qui représente 10 000 milliards de kilomètres. 10 000 milliards de kilomètres. Si vous faites 26 000 multiplié par 10 000 milliards de kilomètres, vous savez la distance qui nous sépare du centre de la Voie lactée. Mmh. Et l'ensemble du système solaire parcourt le tour de cette Voie lactée.
Oui.
Il y a une révolution, hein, comme la Terre autour du Soleil, en 220 millions d'années. C'est-à-dire que notre Soleil, l'ensemble du système solaire, parcourt une révolution complète autour de la Voie lactée en 220 millions d'années.
Oui.
Ce qui est considérable et qu'on a du mal, évidemment, à se représenter les distances et le temps également.
Oui. Ça me dépasse. Où est-ce qu'il est situé, notre système solaire ?
Notre système solaire, lui, donc, il est situé dans un bras qu'on appelle le bras d'Orion, qui est un bras de la galaxie, hein, situé entre le bras de Persée et le bras du Sagittaire. Voilà, grosso modo, où c'est situé donc, dans notre galaxie.
Oui. Comment on peut arriver à se situer par rapport justement à d'autres galaxies ?
Il est vrai que c'est tout le but, l'objet de l'astronomie, de l'astrophysique, de faire des mesures des positions des étoiles dans le ciel. Et il est vrai que quand nous observons le ciel, nous observons pas que des étoiles, mais nous observons aussi d'autres objets qu'on appelle du ciel profond, c'est-à-dire d'autres galaxies. Et ceci a généré beaucoup de débats, de divisions entre les scientifiques pour savoir où on était réellement situé. Est-ce que les objets que nous voyons, est-ce qu'ils faisaient partie même de notre galaxie, la Voie lactée, ou est-ce que c'était des objets extragalactiques, qu'on appelait nébuleuses à l'époque, et qui sont finalement des galaxies, c'est-à-dire des systèmes d'étoiles comme le nôtre.
Qui seraient hors Voie lactée.
De notre Voie lactée.
Oui.
Pour prendre un exemple très simple, la galaxie d'Andromède, histoire de vous donner le vertige, qui est située à 2 millions d'années-lumière de nous. Et qui fait partie des galaxies, les plus proches. Une galaxie qui fait partie d'un groupe, qu'on appelle groupe local. Et des groupes, locaux, il en existe un certain nombre. Ça constitue ce qu'on appelle des amas, des super-amas. Et on peut aller très loin comme ceci.
La différence qu'il y a entre une galaxie et une constellation ?
Alors, la différence entre une galaxie et une constellation, c'est que quand on parle de constellation, en fait, c'est un effet de perspective. Oui. C'est-à-dire que quand nous regardons les étoiles dans le ciel, ces étoiles, par rapport à leur configuration, définissent une certaine géométrie qu'on voit dans le ciel.
Par exemple, comme la grande ours.
Comme la grande ours, par exemple, qui a l'aspect d'une casserole. Oui. Mais il faut savoir que les étoiles ne sont pas du tout situées à la même distance. C'est un effet de perspective. Mais ces étoiles de la grande ours font partie de notre galaxie, qui est la Voie lactée. Tandis qu'une galaxie, eh bien, c'est un système d'étoiles qui est situé en dehors de notre galaxie et qui a l'aspect d'une nébuleuse quand on les observe donc au télescope.
Pourquoi on dit que les étoiles bougent, puisque ça tourne, vous nous dites qu'il y a des révolutions, pourquoi est-ce qu'on les voit toujours à la même place et toujours le même dessin comme la grande ours ou comme d'autres choses, comme la Vierge, comme je ne sais plus quoi?
C'est vrai que c'est un problème d'échelle du temps, en fait. Hein,
oui.
Parce que sur des courtes durées, mais quand je dis courtes durées...
C'est des millions d'années.
C'est... Oui, éventuellement, bon, on va être raisonnable, on va dire quelques milliers d'années. L'être humain, visuellement, ne peut pas apprécier les déplacements des étoiles, en fait.
Oui.
On peut les mesurer grâce aux instruments de haute précision. Et on s'est aperçu qu'il y avait des écarts de position par rapport, bien sûr, aux mesures qui avaient été faites pendant l'Antiquité.
Oui.
Voilà. Grâce aux écrits des anciens scientifiques, depuis l'Antiquité, le Moyen-Âge, eh bien, on arrive justement à pouvoir comparer justement la position donc, de ces astres dans le ciel. Et là, donc, on peut mettre en évidence, en effet, des déplacements physiques. Et puis, il y a d'autres outils modernes qui permettent de mettre en évidence le déplacement des étoiles, leur éloignement, qui est la spectroscopie, qui permet donc d'analyser la lumière qui nous parvient des astres. On peut mesurer les vitesses de déplacement des étoiles, des galaxies, entre autres.
Oui. Tous ces systèmes bougent sur eux-mêmes, font des rotations.
Oui, tout à fait.
Il n'y en a aucun qui arrive à se...
Il n'y a rien de, je dirais, de fixe dans l'espace.
Oui.
Tout est en mouvement.
Oui. Hein,
parce que l'univers fonctionne grâce à l'une des quatre interactions fondamentales qui existent, qui est la gravitation universelle. Donc la gravitation universelle, ça permet d'expliquer bien sûr le mouvement des planètes, des corps autour des étoiles. Ça permet d'expliquer le mouvement aussi des étoiles doubles, hein, c'est-à-dire deux étoiles qui tournent autour de même centre de gravité. Vous avez même des systèmes triples qui existent. Ça permet d'expliquer pourquoi il y a des spirales au niveau des galaxies. La formation également de barres, qui sont situées, je dirais, au centre de la galaxie, des barres d'étoiles qu'on retrouve dans les galaxies dites spirales barrées. Hein.
Oui.
On introduit des notions telles que les ondes de densité pour expliquer cela. Ça permet également d'expliquer l'ensemble des amas des galaxies et cette cohésion qui existe entre justement tous ces corps.
Hein. Oui. Et il n'y a pas des corps, des étoiles qui se percutent ?
Ah si, tout à fait, si, si. Tout à fait. Donc, plus on se rapproche des centres galactiques, plus vous avez une densité en étoiles qui est relativement importante. Et on peut assister justement à des collisions d'étoiles. On retrouve même au centre de la galaxie un trou noir, qui est en fait la résultante d'interactions justement entre tous ces corps massifs. Nous observons également des interactions entre les galaxies, hein, c'est-à-dire que même des galaxies qui font 5000 années-lumière de diamètre, par exemple, peuvent rentrer en interaction avec le même type de galaxies. Ça peut générer des phénomènes de marée intergalactique également.
D'accord. Vous parliez du trou noir. C'est quoi le trou noir ?
Ou le trou noir, c'est une question très pertinente. C'est-à-dire, en fait, le trou noir, par définition, c'est le résultat physique d'interactions de matière et de lumière, mm-hmm. pour lesquelles les lois de la mécanique, je dirais, classique, ne suivent plus, en
D'accord.
fait. Les trous noirs, bien entendu, ça repose, bien sûr, sur des modèles théoriques, concrètement. Qui a vu un trou noir jusqu'à présent ? Personne. C'est-à-dire que c'est les bases en fait théoriques de la physique qui permettent justement de mettre en évidence ce type de phénomène.
Qu'est-ce qu'on trouve dans notre système solaire en dehors des planètes et leurs satellites ?
En fait, dans notre système solaire, on trouve bien sûr une étoile, hein, c'est le Soleil. Et autour du Soleil, ben, vous avez un ensemble de corps qui gravitent telles que les planètes. Vous avez des petites planètes solides qu'on appelle telluriques, hein, telles que Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Hein. Et puis, vous avez des planètes qui sont grosses, géantes, hein, telles que Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, qui sont des planètes joviennes. Alors, pourquoi on les appelle joviennes ? Parce que ces planètes font référence à la planète Jupiter. Tout mmh. simplement. Hein. Jupiter, qui est la plus grosse planète du système solaire, hein, qui a un diamètre quand même 11 fois plus important que celui de la Terre. Donc, vous imaginez un petit peu.
Non, j'imagine pas.
Et entre le groupe des planètes telluriques et des planètes joviennes, eh bien, entre les deux, vous avez une ceinture de cailloux, qu'on appelle oui. une ceinture d'astéroïdes, qui est située à peu près à 2 unités astronomiques. Hein. Je vous rappelle que l'unité astronomique, c'est la distance étalon Terre-Soleil, qui correspond à 150 millions de kilomètres.
Oui.
Donc, cette ceinture d'astéroïdes est située, grosso modo, à 300 000 kilomètres du Soleil.
Mm-hmm.
Et dans cette ceinture, eh bien, vous avez non seulement des cailloux, des fragments rocheux, qui ont des propriétés chimiques basées sur la roche et puis des métaux également.
Oui.
On retrouve donc ces roches métalliques au niveau de cette ceinture d'astéroïdes. Et puis, on peut trouver aussi une planète naine, par exemple, qui est Cérès, un gros astéroïde. Mais c'est qualifié de planète naine parce que en fait, son diamètre est supérieur à 1000 km. On a affaire non plus à un petit caillou, entre guillemets, mais quand même à un objet qui est relativement imposant.
Oui.
Voilà.
Justement, est-ce que ces astéroïdes, ça se déplace peut-être plus vite que les planètes ou que leurs satellites ? Est-ce qu'il peut entrer en collision avec une planète et quelles conséquences ?
Ce qui se passe, c'est que ces astéroïdes, en effet, peuvent rentrer en collision avec d'autres objets. Hein, c'est tout à fait possible.
Oui.
La Terre, elle peut rencontrer ce qu'on appelle des astéroïdes géocroiseurs, mais qui ont une trajectoire, une orbite qui est tout autre que celle des astéroïdes. Parce que la ceinture d'astéroïdes, c'est un système qui est relativement stable, en fait. Par contre, vous pouvez avoir des corps qui peuvent venir du fin fond du système solaire. Justement, on a parlé des grosses planètes, de Jupiter, de Saturne, d'Uranus, de Neptune. Mais le système solaire ne s'arrête pas au niveau de Neptune. Alors Neptune, c'est une planète qui est située à 30 unités astronomiques du Soleil. Donc vous faites 30 multiplié par 150 millions de kilomètres. Et voilà, vous avez une petite idée de la distance de Neptune au Soleil.
Oui.
Au-delà de Neptune, ben qu'est-ce qu'il y a ? Ça, c'est une très bonne question. Vous avez une autre ceinture de cailloux. Cette fameuse ceinture qu'on appelle la ceinture d'Edgeworth-Kuiper, qui possède des planètes naines également, comme Oumea, par exemple, Pluton aussi.
Oui.
Vous avez, je pense, déjà entendu parler de Pluton.
Oui, oui, oui.
Pluton, c'est un cas, je dirais, difficile, hein, parce que en 2006, l'Union astronomique internationale lui avait retiré ce statut de planète. Et à l'heure actuelle, eh bien, c'est remis sur la table. Hein. Ça divise complètement la communauté scientifique. Et il est question de peut-être remettre le statut de planète à Pluton. C'est un peu compliqué.
Oui.
Et dans cette ceinture, qui est caractérisée non plus par des roches métalliques, mais par des corps, des roches qui contiennent de la matière organique,
oui,
mais à l'état de gel. C'est-à-dire qu'on y trouvera, par exemple, de l'ammoniac, des alcanes comme le méthane, par exemple,
mmh,
à des températures qui sont donc relativement basses, hein, vu la distance au Soleil, et sont au-delà de ce qu'on appelle la ligne de glace. La ligne de glace, en fait, c'est une ligne à partir de laquelle eh bien, certains corps chimiques eh bien, ne sont plus à l'état gazeux, mais à l'état de gel, congelé, en fait, à l'état de solide.
D'accord.
Alors, bien entendu, ça dépend des molécules qui sont mises en jeu. Hein. Par exemple, si je prends le cas de la molécule d'eau, H2O, eh bien, la ligne de gel va être située à 3 unités astronomiques du Soleil. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'on ne peut pas trouver de l'eau à l'état gazeux au-delà des 3 unités astronomiques, c'est-à-dire 3 fois 150 millions de kilomètres. Ensuite, pour des molécules comme le monoxyde de carbone, eh bien, ça, à partir de 30 unités astronomiques, eh bien, on ne trouve pas du monoxyde de carbone à l'état gazeux, mais à l'état solide,
oui,
congelé. Et dans cette fameuse ceinture d'Edwards-Kuiper, eh bien, on trouve bien sûr des planètes qu'on appelle des planètes naines. Et ces planètes naines, on les appelle aussi des trans-neptuniens. Pourquoi ? Parce que c'est situé au-delà de l'orbite de Neptune.
Mmh.
Mais le système solaire ne s'arrête pas là et ça continue encore après. Après, vous avez différentes, je dirais, strates, je dirais sphériques, qu'on appelle les nuages de Oort, au pluriel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez plusieurs donc, strates, plusieurs couches. Vous avez ce qu'on appelle le nuage de Hills. Et puis, vous avez le nuage de Oort proprement dit, qui est en fait un réservoir cométaire. C'est-à-dire que sous l'effet des marées et des attractions solaires ou stellaires, eh bien, il y a des morceaux de blocs qui peuvent se détacher justement de ce réservoir cométaire, hein, de ce fameux nuage de Oort, et être expulsés du système solaire ou être attirés justement par le Soleil sur certaines orbites, générant ainsi ce qu'on appelle des comètes. Hein, parce qu'à fur et à mesure que le bloc va se rapprocher du Soleil, vous allez avoir une coma et une queue qui va se former, hein, qui va être à l'opposé de la direction du déplacement du noyau cométaire. Et là, donc, vous allez plein de corps, de molécules qui vont passer de l'état solide,
oui,
comme on disait, à l'état liquide et gazeux, à fur et à mesure que ça va se rapprocher du Soleil. Et c'est pour ça que nous observons dans le ciel ces fameuses belles queues des comètes.
Oui. Est-ce qu'il est possible que la Terre soit percutée par un astéroïde, une comète ?
Ah oui, tout à fait. Hein. Rien n'est impossible. Bon, heureusement, l'espace est suffisamment grand pour limiter tout ça, mais ça arrive périodiquement que vous avez des météorites qui rentrent dans l'atmosphère et qui se consument.
D'accord. Hein.
Si je prends par exemple le cratère Barringer aux États-Unis, en Arizona, vous avez quand même un cratère qui fait 1 km 200, 1 km 300 à peu près, sur dans les 150 mètres de profondeur, quelque chose comme ça, qui est le résultat de l'impact d'une roche qui faisait 50 mètres de diamètre au départ.
Ah oui, quand même.
Voilà, donc c'est quand même relativement important. Hein.
Oui. Est-ce qu'il est possible d'aller loin, très loin ?
On a bien sûr envoyé des... non seulement des fusées, mais aussi des
oui,
sondes spatiales, telles que les sondes voyageurs 1 et 2,
mm-hmm,
qui ont quasiment traversé tout le système solaire. Hein. Le système solaire, en rayon, on va dire que ça fait à peu près 2 années-lumière. Hein. 2 années-lumière de rayon. Alors, vous savez qu'une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Donc, vous multipliez par 2. Vous voyez un petit peu la distance. En ce moment, les sondes voyageurs sont en train d'atteindre cet objectif, en fait. Oui. Entre guillemets, cet objectif, parce que ce n'est pas leur objectif initial au départ. Hein. C'était surtout pour photographier et étudier les fameuses planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, oui, et Pluton.
Bon, nous avons fait un grand tour dans le système solaire. On avance dans l'émission, donc il faut aussi avancer dans les questions. L'Observatoire du ciel à la trappe pour ce mois d'octobre. La Lune, comment sera-t-elle ?
Eh bien, la Lune sera au périgée. Au périgée. Qu'est-ce que le périgée ? Eh bien, le périgée, c'est le point de l'orbite lunaire le plus proche de la Terre. Parce que la Lune décrit une orbite qui n'est pas parfaitement circulaire, mais elliptique. Et la Terre n'est pas parfaitement située au centre aussi de cette ellipse. Donc on a tantôt des distances qui sont très proches. On appellera ça le périgée pour la Lune.
Oui.
L'opposé, ben, c'est l'apogée. Le périgée, le point de l'orbite le plus proche de la Terre. L'apogée, le point de l'orbite le plus éloigné de la Terre. Bien. Et là, la Lune sera à 366 000 km de la Terre.
Oui.
Ensuite, avec un petit peu de chance, vous pourrez voir Jupiter. Je dis bien avec un petit peu de chance. Hein. Ça sera le soir à 19h14 en temps universel. Oui. Donc là aussi, vous rajoutez deux heures. Et avec un petit peu de chance, vous pourrez voir Jupiter direction ouest. Mais oui, ça sera juste après le coucher du soleil, sachant que les astronomes, eux, se basent essentiellement sur le crépuscule astronomique. Parce qu'en fait, vous avez trois crépuscules. Vous avez un crépuscule civil, c'est quand le centre du soleil est situé à 6 degrés en dessous de l'horizon. Ensuite, vous avez le crépuscule nautique, hein, quand le soleil est situé à 12 degrés en dessous de l'horizon.
Oui.
Et puis, le crépuscule astronomique, où la nuit est quand même un peu plus profonde, où le soleil, lui, eh bien, est situé à 18 degrés en dessous de l'horizon. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais même quand le soleil est couché, on a quand même une lueur.
Oui. Qui est très belle en ce moment, d'ailleurs.
Oui, tout à fait, exactement. Qui est une lueur qui peut être gênante, justement, pour les astronomes.
Et oui.
Donc, généralement, ben, on se réfère par rapport au crépuscule astronomique.
Oui.
Jupiter, vous risquez peut-être de l'avoir dans la luminosité solaire encore. Ce n'est pas très évident.
Oui.
Ensuite, ben, il y a Mars que vous pourrez voir à 19h47 exactement en temps universel.
Oui.
On rajoute deux heures pour l'heure locale.
Toujours.
Et vous aurez Mars au méridien de l'observateur, c'est-à-dire direction plein sud.
Mmh.
Et Saturne aussi, que vous pouvez toujours observer, 21h40 en temps universel. Donc là, ben, vous rajoutez deux heures, donc à 23h40 temps local.
Oui.
Jusqu'à 23h40, vous pourrez observer Saturne.
D'accord.
Là aussi, direction sud-ouest.
Oui. Dans notre ciel de nuit, on va dire qu'il rentre dans le ciel d'hiver, parce que c'est vrai que maintenant, on voit bien les étoiles, par contre.
Oui, tout à fait, exactement. Si vous vous levez le matin sur les coups des 5 heures du matin,
tout à fait,
ce qui m'arrive fréquemment,
elles brillent vraiment, les étoiles.
Première chose que je fais, eh bien, j'ouvre les volets pour voir ce qui se passe dehors.
C'est des formations professionnelles.
Presque. Si vous regardez direction est, vous pourrez voir le fameux baudrier de la constellation d'Orion. C'est trois étoiles brillantes alignées. Et si vous les prolongez vers le bas, on va dire vers les 7 heures ou les 8 heures en angle horaire, eh bien vous tomberez sur une étoile très 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 brillante, qui est l'étoile la plus brillante du ciel, qui est Sirius, et non l'étoile du berger, attention. L'étoile Sirius, qui est l'étoile la plus brillante non seulement du ciel, mais qui est l'étoile la plus brillante aussi de la constellation du Grand Chien. Et pour avoir donc plus de renseignements, hein, notamment sur le programme, hein, et les activités également de l'Observatoire des Pléiades à La Trappe, eh bien, il y a un site. Le plus simple, c'est de mettre le Balcon des Étoiles dans le moteur de recherche de Google. Sinon, c'est www.les-pléiades.asso.fr. Et le numéro de téléphone, c'est le 05 62 23 21 13. 05 62 23 21 13. Et toute l'équipe aura le plaisir bien de répondre à vos questions et aussi de vous accueillir sur le site.
Mais merci beaucoup, Denis. C'était très intéressant encore une fois. Et bien sûr, je n'ai toujours pas posé toutes mes questions. Il y en a tellement.
Et oui, il faut en laisser pour les fois prochaines.
Merci beaucoup, Denis. À bientôt.
Oui, merci à tous.